Fréquence protestante, La valeur de l'homme, Emmanuel Taïeb.
La masculinité conquérante. Bonjour à toutes et tous, très heureux de vous retrouver en direct des studios de Fréquence protestante. Aujourd'hui, je reçois l'anthropologue Mélanie Gourarier qui a travaillé sur une tribu d'hommes assez spéciale, la communauté de la séduction, dont l'activité principale et obsédante consiste à séduire un nombre infini de femmes pour se sentir réellement viril. Dans ces groupes dits masculinistes, le statut de l'homme paraît toujours menacé par l'égalisation des rapports entre les genres et par la libération sexuelle des femmes. Les mouvements féministes récents dénonçant la domination masculine ont été perçus par eux comme une menace sur l'ancien équilibre, ou plutôt déséquilibre, dans les rapports entre les genres. Plus les femmes revendiquent et plus les hommes sentent que quelque chose leur échappe, qu'il faudrait désormais rappeler. À grands coups de culture viriliste et d'une initiation à des techniques mystérieuses permettant à coup sûr de charmer les femmes, même les plus parfaites inconnues repérées dans la rue quelques instants plus tôt. La drague, la séduction, y compris sous leurs formes les plus lourdes, deviennent alors des débouchés pour une masculinité conquérante et hégémonique. La relation homme-femme est réduite à une série de pratiques par lesquelles les donjuans modernes prennent possession de l'esprit et du corps des femmes. Pratiques généralisables qui peuvent donc s'enseigner. Experts et coachs divers prodiguent ainsi leurs conseils aux adolescents timides et les aident à devenir de vrais hommes, contre monnaie sonnante et trébuchante bien sûr. Mais la réification des femmes conduit paradoxalement à ne plus être qu'entre hommes, bien protégés, à ne plus vouloir multiplier les conquêtes sans lendemain et finalement à mettre les femmes à l'écart. Bonjour Mélanie Gourarier.
Bonjour.
Mélanie Gourarier, vous êtes chargée de recherche en anthropologie au CNRS, spécialiste du genre et des sexualités, et vous avez publié tout récemment en 2017, Alpha Mâle, séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. C'est sorti aux éditions du Seuil. Alors peut-être pour éclairer nos auditeurs donc sur cette communauté de la séduction où vous vous êtes rendu, racontez-nous un peu comment on fait cette recherche, comment on fait cette observation participante, ça s'appelle comme ça dans le jargon des sciences sociales.
Oui, tout à fait. Alors, juste, je voudrais revenir sur un terme que vous avez employé qui me heurte un tout petit peu, c'est le terme de tribu. Parce qu'un de mes enjeux pour ce travail, ça a été justement de sortir un peu la communauté de la séduction de l'anecdote. Donc, voilà, j'utilise le terme de communauté de la séduction parce qu'en fait, ce sont eux qui se qualifient, eux, ainsi, c'est le terme qu'ils emploient pour se qualifier. Mais il ne s'agit pas vraiment d'un groupe très... facilement identifiable. On peut se poser la question à partir de quand est-ce qu'on se définit comme un homme qui appartient à la communauté de la séduction. Et ça a été justement une des difficultés de mon terrain. Parce que il existe, en fait, c'est un groupe qui existe à la fois sur Internet et hors ligne,
dans la vraie vie.
Qui se réunissent autour de séminaires, de coaching en séduction. Et je les ai rencontrés donc à la fois dans Paris, lorsqu'ils organisaient ce type d'événements, et j'ai beaucoup travaillé sur Internet. Mais ils se qualifient donc d'apprentis séducteurs ou de pick-up artistes. Tout ça dépend des individus, mais par contre, il est très difficile de dire à quel moment est-ce que un individu devient un apprenti séducteur. Est-ce que c'est uniquement quand ils s'inscrivent sur les forums? Est-ce que c'est quand ils interagissent, etc. C'est pour vous dire qu'en fait, finalement, il s'agit d'une nébuleuse qui est bien plus large que les seules personnes qui, suivent des cours ou s'inscrivent sur Internet. Qu'il existe des ouvrages de développement personnel qui sont lus énormément par les jeunes et que c'est un groupe finalement qui est très répandu et qui est difficile. Dont les contours sont difficilement saisissables.
Il n'y a pas de carte de membre. Pick-up artiste, to pick-up, c'est aller draguer.
Oui, un pick-up artiste, c'est ça. C'est littéralement un artiste de la drague. Les pick-up artistes, ce sont des hommes en fait qui cherchent à mettre en application des techniques de séduction qu'ils apprennent entre hommes.
Et alors vous êtes quand même allé un peu les voir, c'est-à-dire vous les avez suivis, dans le livre c'est un petit peu raconté, Mélanie Gourarier, vous êtes allé les voir dans la rue en action. Ça c'est, voilà, comment ça se passe et votre position à vous aussi, est-ce que ça les a troublés?
Alors, c'est venu dans un deuxième temps. Dans un premier temps, moi, c'est pour revenir à votre première question, je les ai rencontrés un peu par hasard. J'ai décidé d'écrire ma thèse sur ce groupe alors que je ne les connaissais pas du tout. Donc, c'était un sacré pari. Mais j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis retrouvée un jour, presque par hasard, dans un séminaire organisé par un des coachs sur le body language, donc le langage corporel. Et je me suis retrouvée dans les salons d'un grand hôtel avec à peu près, je sais pas, une centaine d'hommes qui écrivaient sur des calepins des techniques de séduction. Et je me suis dit, ah là là, il y a quelque chose qui se passe là. Donc j'ai commencé à rentrer sur mon terrain par, on va dire, les cours, le coaching, en fait. Et que c'est petit à petit, en nouant des liens avec certains membres, que j'ai pu les suivre sur dans la pratique, donc sur ce qu'ils appellent le field, comme nous, donc ouais, le terrain. Et dans ces cas-là, ils se retrouvent en beaucoup plus petit nombre. Ils sont en général 3, pas plus. Et ils vont dans des contextes urbains majoritairement très... Enfin, des contextes urbains en grande majorité et des contextes urbains très différents. Ça peut être les centres commerciaux, la rue, le street pick-up. Donc ça, c'est une des pratiques les plus pratiquées. Le street pick-up, il peut y avoir dans le métro, des spécialistes du métro, voilà. Donc, en fonction du terrain, on s'adapte et on se fixe des objectifs qui diffèrent. Ça peut être dire bonjour aux femmes pour ceux qui commencent, voilà, qui sont très timides. Ça peut être obtenir un certain nombre de numéros et on ne s'arrête pas tant qu'on n'a pas obtenu 10 numéros de téléphone. Voilà. Donc, je les ai suivis un peu comme ça pendant 3 ans.
Est-ce qu'ils ont essayé de vous séduire ou est-ce que vous aviez posé des règles dès le début pour dire je viens ici professionnellement ?
Alors, j'ai toujours dit que je venais professionnellement dans tous les cas et je n'ai jamais travaillé undercover. Quoi. J'ai toujours dit les raisons de ma présence. Donc, j'ai toujours dit que j'étais étudiante en sociologie. Je préférais dire sociologie parce que c'était quand même plus simple que l'anthropologie à expliquer. Enfin, pour ça me paraissait plus simple. Alors, ils connaissaient très bien la sociologie, puisqu'un certain nombre sont en master, pratiquent les sciences, enfin, s'intéressent aux sciences sociales aussi, puisqu'ils considèrent que la séduction est un savoir qui nécessite d'un certain nombre de connaissances, qui sont des connaissances de sciences sociales, de sciences humaines, etc. Et pardon, je m'éloigne de votre question qui était...
Non, c'était ce qu'ils ont essayé de vous séduire aussi.
Ah voilà, ils ont essayé de me séduire.
Ils ont l'air un peu compulsifs, ou en tout cas professionnalisés.
Alors, ils ne sont pas compulsifs, justement, ouais. Pas du tout. Ils sont tout à fait... Ils choisissent très bien leur cible. Et je n'ai pas été la cible tellement de séduction, pour des raisons qui n'ont absolument pas trait à mes qualités de femme, je pense, mais plutôt parce que, et c'est quelque chose que j'analyse alors dans un article plus particulièrement paru dans Ethnologie française. Dans le Journal des anthropologues, excusez-moi, dans le Journal des anthropologues, où là, j'analyse les raisons pour lesquelles, finalement, je n'ai pas été la cible des séductions. Et c'est cette absence de séduction sur mon terrain m'a finalement fait m'apercevoir que une des choses les plus importantes pour ces hommes n'était pas nécessairement le rapport aux femmes, même si c'était l'objet de toutes leurs conversations et leurs objectifs affichés. Mais il s'agissait beaucoup plus, à mon sens, de rapports entre hommes. Et c'est une grosse, grosse partie de mon travail, une majeure partie de mon travail, étonnamment pour un tel sujet, est de travailler sur les relations entre hommes.
D'accord. On va écouter un séducteur, Fabrice Julien, qui recourt, je le dis aux auditeurs, un vocabulaire très particulier.
Comment trouver un bon lair de séduction ? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler des lairs. Déjà, un lair, qu'est-ce que c'est ? Un lair, c'est un regroupement de players, tu vois, des gens qui sont motivés pour aller sarger, pour aller faire du pick-up. C'est des gens qui, en fait, vont vouloir s'améliorer en séduction. C'est des gens, en fait, qui vont être dans le même état d'esprit que vous. Alors, comment trouver un lair ? Déjà, n'hésitez pas, si vous cherchez un wingman, on peut se servir de cette vidéo. Dans l'espace commentaire de cette vidéo, vous pouvez dire, voilà, je cherche un wingman sur telle ville. N'hésitez pas à me mettre un MP. Ensuite, vous pouvez chercher tout à fait des wingman dans les groupes Facebook. Vous pouvez aller chercher sur mon groupe, la communauté de la Cyprine. Vous pouvez aller chercher aussi sur d'autres groupes de pick-up, il y en a sans doute. Vous pouvez aller chercher sur les gros forums, Art Séduire, French Toast Séduction, voilà, les forums comme ça. Après, voilà, vous devez comprendre qu'il y a des lairs plus ou moins privés. Et il y a des lairs où c'est plus ou moins difficile d'entrer. Il y a un lair légendaire qui était le lair de Snipe, qui s'appelait, qui est plus trop actif maintenant je crois, mais qui s'appelait le Cercle des Players Parisiens, le CPP. C'est un lair pour lequel il était très difficile d'entrer. Il y avait un test d'entrée en fait. Le test c'était d'aller aborder 3 ou 5 filles, je ne me rappelle plus, et d'avoir une conversation et un numéro, une conversation qui dure au moins 10 minutes je crois, et au moins un numéro sur une heure de pick-up. tu devais faire ça. En soi, il ne faut pas un niveau de ouf pour faire ça. Il faut quand même un peu de réussite, mais bon, il ne faut pas être dans un mauvais jour, quoi. Mais il ne faut pas un niveau de ouf, mais c'était au moins le gage qui avait que des players avec un petit niveau, au moins dans ce lair. Et dans ce lair, ils partageaient toutes leurs techniques, les astuces. Enfin, il y avait plein de trucs qui circulaient, ce qui en a fait un lair légendaire sur Paris. Donc ça, c'était vraiment cool. Après, nous, on avait fait un lair à Lyon. Il y avait un lair à Aix-en-Provence aussi sur des mecs. Après, on n'était pas hyper exigeants. Tu vois, il n'y avait pas des tests d'entrée de haut, juste que le mec soit sympa, qu'il soit pas dans le concours de builds, qu'il soit pas un monsieur je sais tout qui va tout expliquer, l'iPhone Neg, l'iPhone DHV, la machin, mais il prend pas la tête, tu sais.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, la masculinité conquérante. Nous sommes en compagnie de Mélanie Gourarié. Mélanie Gourarié, ce type de discours très étrange pour le profane, vous êtes familier avec lui?
Oui, là, c'est vrai, on a l'impression d'écouter une langue étrangère. Bon, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur cet extrait. Déjà, je pense qu'il faut que je rappelle un peu l'origine de la communauté de la séduction. Moi, j'ai travaillé en France, mais la communauté de la séduction vient des États-Unis. Elle est apparue au début des années 2000. En Californie, dans un contexte où se développait au même moment le développement personnel et le coaching, et les premiers réseaux sociaux et forums de discussion sur Internet. La communauté de la séduction, elle a bénéficié en fait de ces deux nouveautés-là. Donc c'est une première chose. Donc on entend un vocabulaire qui est un vocabulaire anglo-saxon. Et là, plus particulièrement, donc le YouTuber parle de lair. Donc le lair, ça veut dire terrier. Et en fait, il s'agit de groupes locaux, d'organisations locales de la communauté de la séduction. Donc là, on entend par ville, Lyon, Aix-en-Provence. Donc il y en a à peu près dans beaucoup de villes de France, à l'initiative de membres de pick-up artistes qui prennent en charge cette fonction-là d'organiser, de structurer un lair. Et dans ces lairs qui ont souvent leur page internet, vont évoluer des hommes qui vont se réunir de visu régulièrement pour pratiquer la drague de rue, la drague en général.
Voilà. Lui, là, Fabrice Julien, il se présente d'emblée comme coach en séduction, expert en séduction. Là, il y a quand même effectivement ce que vous disiez, Mélanie Gouary, c'est-à-dire l'importation de ce discours très, très, très présent aux États-Unis du développement de soi, de je caricature, si on veut, on peut, il faut aller prendre ses ressources en soi-même. Là, il y a quand même une base très... très typique américaine dans le discours des séducteurs.
Tout à fait, et c'est des discours qui sont de plus en plus travaillés par les sciences sociales, parce qu'il y a une influence énorme du développement personnel dans les vies. Je pense aux travaux d'Eva Illouz, qui travaille beaucoup sur les effets du développement personnel sur l'amour, les manières de vivre l'amour, de ressentir l'amour. Mais effectivement, il est difficile de comprendre ce genre de groupe sans s'intéresser au poids dans la vie des gens du développement personnel. Et effectivement, ça, moi, je me suis intéressée un petit peu à cette idéologie-là, qui est plus qu'une idéologie. Je dirais que c'est même un paradigme, puisqu'on a du mal à se penser maintenant en dehors de cette façon de définir l'individu. Donc, il y a deux choses dans le développement personnel. Il y a d'une part l'idée que l'individu pourrait se transformer et que ça viendrait de sa propre volonté. Donc, on voit bien à quel point ça masque en fait les déterminants sociaux qui réduisent un peu les capacités d'agir des individus. Donc tous les individus seraient égaux face à leur volonté. En fait, il n'y aurait plus que la volonté des individus, donc plus de déterminisme social.
Plus de propriété sociale, plus de positionnement.
Exactement. C'est la première chose. Et ensuite, ce que ça a pour effet, à mon avis, second effet très important, c'est que le développement personnel va définir et normaliser des individus qui seraient désirables. C'est-à-dire que quand on cherche à se modifier, quel individu on vise, et cet individu-là visé par ces techniques de travail sur soi ne sont pas neutres, enfin n'est pas cet individu-là idéalisé, n'est pas neutre non plus socialement, et donc on va fabriquer un nouvel idéal masculin, un nouvel idéal féminin qui correspond aussi à des critères sociaux très déterminés.
Mais qu'on va essayer de en tout cas qui vont être masqués comme tels. Mais alors en tout cas, ce qui est intéressant quand même, et on le voit dans votre ouvrage, Mélanie Gourarié, c'est que il y a quand même donc un travail sur soi. On va relooker les apprentis séducteurs, on va les prendre en main. Il y a quand même de manière très marquée l'idée qu'il faut pour être séducteur quand même être cultivé, avoir de la conversation. Donc ça oblige quand même ces hommes-là, à se cultiver, à lire et à parler bien. Donc il y a quand même là une petite pression particulière, en tout cas un changement intéressant pour eux.
Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment spécifique à la communauté française, pour le coup, qui essaye de se dégager des coachs, enfin du coaching à l'américaine, qui repose sur des techniques beaucoup plus, ce qu'ils appellent des routines, donc des techniques plus comportementales. Là, pour la French Touch, on va dire, dans la communauté de la séduction, c'est vraiment donc le séducteur à la française, entre guillemets. On ne me voit pas faire, mais je précise que je mets des guillemets dans la séduction à la française. C'est un séducteur qui séduit parce qu'il est naturellement séduisant. Et être naturellement séduisant, c'est être effectivement, comme vous venez de le dire, un homme cultivé, un homme capable de discussion, etc. Mais là aussi, c'est très intéressant parce que c'est la culture qui est lue, qui est qu'on retrouve commentée sur les forums de discussion. C'est un certain type de savoir aussi, en fait, qui va orienter vers un type de masculinité spécifique, qui est un type de masculinité finalement qui correspond aux classes moyennes et supérieures blanches occidentales, quoi. Voilà.
Et qui vient de loin, qui vient quoi? Qui vient de l'amour courtois, qui vient du 19e siècle dans les salons, c'est ça qu'ils essayent d'atteindre?
Ah, tout à fait, leur inspiration, c'est le dandy, quoi. Là, vraiment, on est dans cet idéal viril, réactualisé, qu'est le dandy.
Dans le petit extrait sonore qu'on a entendu, alors il est question d'aller sarger, donc aller draguer, et puis il y a un wingman. Alors un wingman, c'est un ailier, c'est un copilote. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le l'aide du dragueur principal, Mélanie Gouarier.
Exactement. Ouais. Ça va être la personne qui va pouvoir favoriser la séduction. Parce qu'il va pouvoir agir de plusieurs manières. Donc là, c'est très intéressant parce qu'il y a des stratégies qui se décident avant qu'ils y aillent, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont, c'est ce peu à quoi j'ai pu assister. Donc ils sont en général 2-3. Et il y en a un qui se désigne pour dire, voilà, c'est mon tour. Là, je vais draguer. Donc toi, tu vas m'aider, du coup. Et en fait, du coup, l'ailier, en fait, le wing, il va mettre en valeur celui qui entreprend la séduction, où il va détourner, si c'est un groupe de copines, il va détourner l'attention des copines. Vous voyez, c'est des techniques comme ça qui se mettent en place.
D'accord, il y a des stratégies très, 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 très subtiles d'approche. Alors, il y a plusieurs coachs que vous évoquez dans votre ouvrage, dont l'un qui est assez connu, en tout cas aux États-Unis, qui s'appelle Neil Strauss, qui dit et qui rappelle à qui veut l'entendre que c'était, quand il était plus jeune, c'était un peu un loser, c'était un peu un adolescent ou un enfant pas très très bien dans sa peau. Et alors, si on prend au sérieux ce discours-là, il y a quand même l'idée que la séduction ou l'apprentissage de la séduction, c'est une manière un peu de monter en puissance ou de sortir d'un état adolescent statique, épouvantable, dont on veut absolument s'éloigner. Mm-hmm. Mélanie Gouarier.
Alors oui, moi je prends très au sérieux ces discours-là, mais pour les analyser dans leur globalité et dans la manière dont ces récits sont systématiques dans les trajectoires de séducteurs, il me semble qu'on a là affaire plutôt à des récits assez classiques initiatiques qui visent à montrer l'efficacité de la méthode. C'est-à-dire que c'est des récits a posteriori où on va se décrire comme vraiment quelqu'un qui comprend rien, qui était timide, qui était pas beau, etc. et qui va être façonné par l'apprentissage de la communauté de la séduction et qui va devenir un séducteur d'exception. Mais ça ne veut pas dire que, pour de vrai, ils étaient vraiment des losers au départ et qu'ils sont devenus d'excellents séducteurs. Ça veut dire qu'ils lisent leur trajectoire à partir de cet idéal-là qu'ils pensent avoir réalisé.
D'accord. Moi, je pensais naïvement que certains d'entre eux étaient quand même dans une espèce de misère sexuelle qui est, quand ils étaient plus jeunes, qui est quand même un élément qui revient beaucoup dans leur discours, le fait qu'ils ont raté quelque chose, ils avaient peur des femmes, ou ils n'y allaient pas, ou ils ont été conduits beaucoup de fois. Donc c'est difficile, parce que si c'est un discours ex poste, pour aller le récupérer, c'est très difficile. Mais il y a quand même cette dimension-là, en tout cas dans leur propos.
Ce qui m'intéresse plutôt, c'est justement ce discours sur la misère sexuelle. Qu'est-ce que ça dit? Je veux dire, pourquoi penser cette période d'apprentissage de la sexualité, qui est une période d'apprentissage de la sexualité, du désir, de la séduction, qui est un apprentissage finalement, qui est une expérience qui est partagée autant par les hommes que par les femmes, pourquoi lire cette période d'apprentissage qui est tâtonnante, hein, pour hommes comme pour femmes, comme étant miséreuse. C'est-à-dire que nécessairement, avec une lecture négative, alors qu'en fait, il s'agit d'une étape assez banale, en fait. Vous voyez ? Donc pourquoi c'est l'intervention de cette idée de la misère sexuelle qui m'intéresse, dans le sens où elle va justement permettre, encore une fois, d'opposer deux modèles masculins, donc le loser qui est un homme sans qualité, si vous voulez, et le séducteur qui, lui, est un homme de pouvoir, de puissance, etc.
La plupart des coachs, en tout cas, vous en indiquez quelques-uns dans votre ouvrage, avaient un capital professionnel ou des formes de socialisation avant de devenir coach qui n'était pas anodin. Vous dites certains étaient cadres, travaillaient dans les ressources humaines. Là, on peut faire un lien quand même entre ce capital-là et le devenir coach.
Oui, tout à fait. Il y a la plupart des coachs que j'ai rencontrés étaient effectivement dans des professions, comme vous venez de le dire, donc cadre dans les ressources humaines, cadre dans l'informatique, donc maîtriser un peu les outils, hein, qui sont les outils fréquents de la communauté de la séduction. Mais ça dit aussi, à mon sens, beaucoup sur le fait que, effectivement, enfin, socialement, la communauté de la séduction, qu'est-ce que c'est, de quoi elle est composée? Elle est composée quand même d'hommes majoritairement des classes moyennes et supérieures, qui a très peu de représentants des classes populaires, et que l'idéal masculin véhiculé, bien qu'il puisse y avoir des coachs racisés. Eh bien, l'idéal communautaire est un idéal blanc, de masculinité blanche majoritairement.
Donc c'est quoi l'idée? C'est que c'est des gens qui restent dans leur groupe social, mais essayent de monter, ils essayent de se légitimer davantage par cette séduction-là, c'est-à-dire d'ajouter une corde à leur arc.
Tout à fait. Ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important pour comprendre les raisons de cette communauté. C'est qu'il me semble que si on s'arrête à la séduction des femmes, ou si on considère que leur objectif, c'est les femmes, on se trompe. Parce qu'en fait, ils essayent de se réaliser en tant qu'hommes en devenant des séducteurs, mais cette séduction-là qu'ils acquièrent leur permet de devenir des hommes d'exception. Et ces hommes d'exception sont des hommes qui se positionnent au sein des hiérarchies entre hommes, mais entre hommes et femmes, pardon, mais aussi des hiérarchies entre hommes. Et il s'agit pour eux, le plus important finalement, c'est d'être en haut de la hiérarchie entre hommes. Voilà, puisque l'ensemble des hiérarchies, il y a les femmes en bas, puis les hommes, et puis les hommes d'exception. Et il s'agit de se positionner tout en haut de cette échelle-là.
Oui, d'être au sommet de cette échelle-là. Ils quittent leur métier, en tout cas pour les plus connus, les coachs les plus connus. C'est aussi une reconversion professionnelle, ça a l'air assez lucratif d'ailleurs, ils quittent leur métier.
Oui, j'en ai rencontré un certain nombre, je dirais les trois quarts des coachs que j'ai rencontrés, effectivement, avaient fini par se professionnaliser complètement et vivre du coaching.
Donc ils facturent des formations ou ils publient des livres qui rapportent des droits d'auteur. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils font la tournée des lairs ou la tournée des lieux pour former des gens.
Alors ils publient des livres, mais je suis pas sûre que ce soit ça qui soit le plus rémunérateur. Ce qui est très rémunérateur, c'est les relooking par exemple, et puis les séminaires de coaching, enfin les séminaires de séduction et les coachings en plus petits groupes qui peuvent être des cours intensifs d'une semaine ou voilà. Donc c'est ce qui rémunère majoritairement les coachs.
Ils ont développé une vraie expertise sur ça. On va écouter le témoignage de Simon qui se présente comme dragueur professionnel. C'est dans un podcast d'une émission qui s'appelle Il se confie.
Moi, par exemple, j'invite une jeune fille à boire un verre, on va dire, après 19h ou un verre le soir, que nous deux. Généralement, c'est parce qu'elle m'intéresse d'un point de vue amoureux. C'est-à-dire, je vais pas avoir le même comportement. De toute façon, globalement...
Bah moi, en tant que femme, pas forcément.
Après, peut-être. Hein, après,
mais tu vois ce que je veux dire, ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est pas parce que la meuf, elle accepte de boire un verre avec moi. Moi, concrètement, et vraiment, globalement, et j'en parle beaucoup avec les copines qui ont des dates régulièrement, plus jeunes que moi, et souvent, elles disent bon, il est pas mal, on va boire un verre pour voir ce qu'il a dans le crâne.
Ouais, mais ça veut dire qu'elle est quand même un minimum intéressée, sinon elle viendrait pas. Enfin, moi,
c'est clair que si elle le trouve extrêmement repoussant, elle.
C'est ça. Donc, en fait, c'est-à-dire que là, tous les hommes qui écoutent ce podcast, une jeune fille accepte de boire un verre avec vous, c'est qu'elle est un minimum intéressée.
Ouais, sinon, physiquement.
Ouais, voilà, c'est ça.
Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir vraiment un coup de cœur physiquement pour un gars, d'aller boire un verre avec lui, c'est une catastrophe. Le mec est inintéressant, il roule des mécaniques, il joue un jeu, il est pas naturel, il est... et donc du coup il me tape pas, enfin tu vois, il me donne pas envie. Là où un mec à peu près banal, qui serait moins beau que lui, bah par contre quand on va discuter, il va y avoir un tel échange entre nous, parce qu'il a une culture, parce qu'il est drôle, parce qu'il est intéressant, bah lui il va avoir plus de chance que le mec qui est beau gosse, mais peut-être parce que je suis plus vieille, hein. Peut-être que les nanas de 25, je ne sais pas. Hein,
Je pense aussi que y a, enfin, moi je le dis et je le considère, enfin, je considère que quand même il y a la part. En fait, ça dépend ce que tu recherches, dans le sens que, en fait, bon, c'est un peu réducteur, mais globalement, moi j'ai deux cases pour les filles que je rencontre.
Ouais.
Et globalement, c'est hyper rapide, dans le sens qu'en fait, la sélection elle se fait hyper rapidement. Il y a la nana du soir et il y a la nana où quelque chose est envisageable.
Ouais.
On va pas se mentir, c'est clair et net.
Et ça, tu le sais rapidement ?
Ah, ça, mais je le sais direct.
Enfin, genre dans les 4 premières secondes ?
Non, pas dans les 4 premières secondes, faut qu'on ait une conversation. Mais c'est-à-dire que si je sens que la jeune fille en face de moi, elle a pas de passion, elle a pas de centre d'intérêt, elle a pas de réactivité sur ce que je dis, autre... Enfin voilà, si je considère qu'elle a que son physique pour elle, bah globalement elle rentre dans la case du coup d'un soir, quoi. Moi ça me gêne pas en soi, bon, voilà, elle est cool, elle est mignonne, bon bah voilà, tu vois,
du coup depuis les coups d'un soir t'en as eu pas mal ?
Du coup j'ai arrêté de compter en fait au bout d'un moment.
C'est pas vrai.
Si. Au bout d'un moment.
Donc t'es passé de rien du tout avec la communauté masculiniste entre guillemets.
À ça, ouais.
À ça, mmh. C'est-à-dire genre t'as.
J'ai arrêté de compter.
Même au début tu comptais quand même un peu.
Au début je comptais un petit peu.
T'as arrêté de compter à combien ?
Après j'ai arrêté de compter. Je sais pas, une trentaine, un truc comme ça.
Ok.
Mais en soi c'est en fait aussi.
Et tu les trouvais où dans la rue ?
Alors voilà, il y a un truc qu'il faut que tous les auditeurs comprennent, c'est que pour arriver à de tels chiffres, c'est quand même un certain investissement. Dans le sens que je pouvais passer certains week-ends le samedi après-midi à déambuler au hall avec un pote. Mais après c'est aussi c'était cool parce que je partageais aussi mon moment.
Ah, le faisiez à deux du coup.
Ouais, du coup généralement
t'avais ton wingman.
Ouais, c'est ça, t'as ton wingman, il te rassure, il te challenge, on rigole bien. Enfin tu vois, on n'était pas non plus c'était plus je me balade avec un pote et quand je vois une nana qui me plaît, bah je vais la voir.
La valeur de l'homme, fréquence protestante, la masculinité conquérante. Nous sommes en compagnie de Mélanie Gourarier. Bon, il était jovial, cet intervenant. Est-ce qu'il y a des différences dans à la fois le coaching et les manières de draguer entre la France et les États-Unis ? Parce qu'aux États-Unis, il y a quand même quelque chose de très, très, très ritualisé qui s'appelle le dating, avoir une date, et où tout le monde connaît les codes. En France, on est sur quelque chose d'un peu différent. Est-ce que ça joue, si vous avez pu voir les deux, en tout cas, Mélanie Gourarier ?
Oui, on oppose souvent les modèles français aux modèles états-uniens. Alors, on imagine que le modèle états-unien est beaucoup plus ritualisé que l'autre, enfin que notre modèle. Et en fait, il est tout autant, sauf qu'il a pour spécificité de masquer sa ritualisation, quoi. C'est-à-dire que, en fait, il y a énormément de codes, mais ces codes doivent rester implicites. Donc, je pense qu'il y a en fait, là, je parle de rituels de séduction en général. Hein. Je ne parle pas nécessairement de la communauté de la séduction. Mais il me semble qu'il y a un enjeu aujourd'hui à justement essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans notre pensée européenne, je pense, on imagine qu'une bonne séduction est une séduction qui doit masquer ses intentions et qui doit se faire, soi-disant, de façon naturelle. Donc, bon, bien évidemment... il y a tout autant de codes, mais pourquoi finalement souhaitons-nous masquer ces codes et qu'est-ce que ça produit sur les rapports de genre, etc., cet implicite ? Et je pense que c'est un enjeu déterminant, notamment un enjeu féministe déterminant, parce que cet implicite-là produit des rapports de pouvoir très forts encore aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont absents, hein, aux États-Unis, mais ils sont plus visibles. Ils sont par exemple aux États-Unis, c'est aux hommes. Hein, il convient aux hommes de payer les premiers rendez-vous, le premier café, etc. Donc là, bien évidemment, se joue un rapport inégalitaire dans ce rapport à l'argent. Mais ce rapport inégalitaire ne se voit pas en France parce que, soi-disant, il y aurait plus de fluidité dans ce rapport à l'échange économique. Or, il est toujours présent, mais on ne veut pas le voir. Et ce « on ne veut pas le voir » rend, à mon sens, le rapport de domination beaucoup plus insidieux et tout aussi dangereux. danser.
Si on ne veut pas le voir, il piège les femmes, ou en tout cas, elles sont quand même au courant, mais c'est difficile pour elles de déconstruire un rituel où tout se joue dans un implicite.
Bah, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a rien de pire que quand on s'imagine être dans un rapport égalitaire, alors qu'en fait, on a juste masqué les déterminants inégalitaires. Voilà, c'est l'efficacité du truc marche encore mieux quand on masque en fait ce qu'il s'y joue, et pour moi, c'est beaucoup plus dangereux.
Parce qu'en vous lisant, je me disais, au fond, la place des femmes, elle est très compliquée. Là, du point de vue des gens de la communauté de la séduction, ils les décrivent comme des gens très passifs. Enfin, il suffit d'appuyer sur 3 boutons et on drague. Et enfin, on y arrive. Donc là, est-ce que vous avez observé les femmes? Est-ce qu'elles se font avoir? Est-ce qu'au contraire, elles le savent, mais elles disent rien parce que ça les intéresse? Est-ce qu'elles ont réussi quand même à décoder? Ou est-ce qu'au contraire, il faudrait déconstruire absolument pour, là, donner des armes aux femmes?
Alors, mon observation des femmes, et il faut quand même que je le précise, pour être tout à fait honnête, n'est pas une observation de terrain, c'est-à-dire que je n'ai pas pu observer les femmes dans cette communauté de la séduction, ça rendait les choses très difficiles. Il aurait fallu que je leur cours après, en fait.
Oui, juste après le...
Voilà, et c'était absolument intenable comme position. Donc mon observation et ma connaissance de ce que fait la séduction aux femmes est une connaissance intime, personnelle, qui vient de mon expérience personnelle, est une connaissance un peu aussi d'expérience vis-à-vis d'autres femmes que je fréquente. Et effectivement, je pense qu'il y a une compréhension de ce qui se joue dans un rapport de séduction très nette, hein, de la part des femmes, mais une adhésion aussi... aux normes, parce que on est socialisé ainsi, et c'est très difficile de déconstruire, même si on y œuvre, on y travaille. Il y a des choses qui résistent. Je pense qu'en ce moment, la recherche féministe travaille beaucoup plus activement sur la construction du désir hétérosexuel. Et on voit très bien que ce désir hétérosexuel repose sur une forme de passivité de l'expression du désir féminin ou de l'action féminine. Et que ça, c'est une construction. C'est-à-dire, évidemment, on n'est pas déterminé en tant que femme à ne pas exercer ou ne pas avoir un désir actif. Mais l'expérience fait que quand on l'a, si on exprime un désir actif, on est sanctionné socialement. Et les femmes finissent par finalement adopter une position de retrait, qui peut être un retrait stratégique, un retrait fin. Hein, c'est aussi je trouve ça très intéressant, par exemple, parce qu'on imagine qu'une forme de timidité ou de passivité féminine est une, enfin, on va envisager la passivité comme une forme d'inaction. Or, il me semble qu'il y a il faudrait changer le regard, c'est-à-dire que le retrait ou la timidité est aussi une forme d'action.
Mais
en fait.
Et qui est lié au fait que c'est surtout le désir masculin qui occupe tout l'espace,
oui.
Et qui implique ce retrait,
oui.
Ou cette non-expression du désir féminin.
Exactement, quand on s'intéresse de toute façon au désir... Enfin, le genre est une question relationnelle, donc la construction du désir hétérosexuel, elle est construite dans une binarité différentielle et hiérarchisée, c'est-à-dire que le désir masculin, je pense que les choses sont en train de se transformer, mais jusqu'à présent, le désir masculin est impérieux, plus fort, plus visible, plus... est beaucoup plus fréquent, permanent que le désir des femmes, qu'on considère comme étant moins fort, capable de se contrôler, etc. Toutes ces choses-là. Et que c'est dans cette coupe, le désir féminin se construit en opposition vis-à-vis de la façon dont on va concevoir le désir masculin.
J'ai l'impression, en lisant votre livre, Mélanie Gourarier, que les gens de la communauté de la séduction, les séducteurs, n'ont absolument aucune idée qu'un désir féminin puisse exister. C'est-à-dire que c'est au-delà des hors radars.
Alors, non. Là, pour le coup, non.
Quand même.
Mais parce que justement, alors, ça c'est très intéressant parce que c'est une des subtilités de la communauté de la séduction. C'est-à-dire que pour eux, être un bon séducteur, c'est être un séducteur qui est capable de générer chez les femmes un très fort désir. Donc, ils évaluent leur séduction à l'aune du désir qu'ils suscitent. Donc ça, c'est très important. Donc ils reconnaissent une capacité de désir des femmes supérieure à la moyenne des hommes. Et surtout, ils reconnaissent une capacité de jouissance qui est largement supérieure, en tout cas à l'époque où je faisais mon terrain, à la moyenne des hommes de leur génération. Et du coup, ils ont tout un apprentissage technique sur la jouissance des femmes, c'est-à-dire comment faire jouir une femme, c'est une question qu'ils se posent réellement. Et plus on fait jouer une femme et plus on est un bon séducteur. Et dans ces cas-là, il y a une construction, encore une fois, différentielle qui s'opère. C'est-à-dire que pour faire jouer une femme, il va falloir contrôler sa propre sexualité, y compris par des techniques de rétention de sa propre jouissance. Donc, ils ont plein de manières d'apprendre à se contenir. Donc, ils vont avoir une hygiène alimentaire spécifique, une hygiène sportive. Ils vont apprendre à contenir leur éjaculation. Tout ça en vue, finalement, de maîtriser leur propre sexualité pour générer une sexualité qui serait irrépressible chez la femme et qu'ils pourraient, eux, contrôler.
Mais alors, c'est l'idée quand même que, finalement, donc on va susciter le désir chez la femme. Si on parvient à être un bon amant, au fond, ça renvoie surtout à de l'estime de soi, pour l'homme. C'est ça leur idée ? C'est-à-dire que j'ai des savoirs sexuels, je vais pouvoir effectivement contrôler le corps de la femme, je l'amène à l'orgasme, mais c'est surtout moi que ça flatte. Enfin, j'ai fait mon job de séducteur, j'ai fait mon job d'alpha mâle, non ?
Oui, voilà, c'est exactement ce que vous dites quand vous employez le terme d'estime de soi, que pour le coup, j'emploie pas parce qu'il s'agit d'un thème plus psy, mais la façon dont ils vont être contents de générer du plaisir chez les femmes, c'est pas ce que je pense que ce que vous voulez me faire dire, c'est que finalement leur souci n'est pas un souci altruiste, c'est pas quelque chose ou empathique. Il s'agit pas de leur faire plaisir, c'est-à-dire que c'est pas la visée, que les femmes soient épanouies dans leur sexualité, c'est pas leur visée. Par contre, effectivement, à travers la jouissance des femmes, ce qu'ils cherchent à obtenir, c'est leur propre satisfaction et aussi la hiérarchisation entre eux. C'est-à-dire que si je suis un homme qui est un bon amant, je vais être un homme supérieur vis-à-vis de mes pairs aussi.
Donc on en revient à cette idée-là d'être dominant parmi les dominants. Mélanie Gourari, un alpha mâle, qui est le titre de votre ouvrage, c'est ça. C'est-à-dire c'est celui qui, de son point de vue, a coché toutes les cases de la réussite comme homme, de la réussite virile, de la réussite masculine. C'est ça l'alpha mâle, il est au sommet de quelque chose.
Exactement, c'est ça l'alpha mâle, avec une subtilité supplémentaire qui consiste à dire que finalement, l'alpha mâle est quasiment celui qui se passe du jugement des autres. Vous voyez, il est tellement puissant que finalement il n'a plus besoin de catégorie, il n'a plus besoin d'être évalué, il est hors évaluation, il est au-delà de ça. C'est l'homme un peu charismatique, vous voyez, cette idée-là de quelque chose qui dépasse les catégories ordinaires.
Je suis surpris que la communauté de la séduction ou ce type de séduction survive à l'égalisation des rapports hommes-femmes, à la libération sexuelle. C'est un archaïsme ou c'est encore... C'est quelque chose qui tient, parce qu'on aurait pu imaginer que ça pourrait être balayé avec tous les mouvements de libération depuis les années 70, et encore là, tout récemment, il y a deux ans, les MeToo, etc. Ils tiennent encore, là, ces séducteurs ?
Alors, non seulement ils tiennent encore, mais en plus, ils tirent leur capacité de se revigorer ce contexte d'égalité. Parce que qu'est-ce qu'ils disent, en fait ? Et ça, c'est un truc que j'ai pas encore dit, mais qui est très important, qu'il faut que je dise absolument, c'est qu'ils se positionnent contre le féminisme, donc ils se disent anti-féministes, et moi je les qualifie de masculinistes, c'est-à-dire que ce sont des hommes qui non seulement s'opposent, essayent de contrarier les acquis du féminisme, mais en plus réfléchissent à une condition masculine, et ils réfléchissent à ce qu'est la condition masculine actuelle, à partir d'un discours de souffrance. Donc ils endossent à cette question de la crise de la masculinité, qui a été un des points clés de mon travail, puisque j'ai fait tout un travail critique pour m'interroger sur est-ce qu'il y a une crise ou pas. Et alors ma réponse est non. Et ce qui m'intéresse, c'est pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de crise si historiquement et socialement c'est faux. Mais pour revenir à ce que vous disiez sur la question de l'égalité, donc eux, ce qu'ils disent, c'est que finalement on est dans une période où l'égalité serait acquise. Hommes et femmes, c'est bon, on a les mêmes droits maintenant. Il n'y a plus de, finalement, le féminisme est quasiment obsolète. Hein. Puis si l'égalité est acquise, le féminisme n'est plus nécessaire. C'est un peu leur discours. Et qu'on est passé dans une société post-féministe où les hommes seraient en position dominée. C'est-à-dire que, puisqu'elles ont les mêmes droits que les hommes, les femmes, qu'elles continueraient d'exercer leur pouvoir sur les hommes, en fait, par la place qu'elles auraient dans les rapports de séduction. Donc, ce serait elles, en fait. Ce qu'ils disent, c'est que c'est les femmes qui décident.
C'est les femmes qui ont pris le pouvoir. Et de toute façon, elles ont toujours décidé. C'était elles qui décidaient de sortir avec un homme ou pas.
Oui, voilà. Et ça va dans un contexte inégalitaire, selon eux, mais dans un contexte qu'ils pensent égalitaire, où les femmes continueraient d'exercer leur liberté de choix, ça marche plus. Et c'est là où les femmes tireraient leur pouvoir total, aujourd'hui, de la séduction qu'elles exercent sur les hommes. Et c'est pour ça que pour eux, c'est un enjeu stratégique d'inverser ce rapport qu'ils considèrent comme inégalitaire dans la séduction et de reprendre le pouvoir dans la séduction. Donc pour eux, reprendre le pouvoir dans la séduction, c'est reprendre le pouvoir dans toutes les sphères sociales plus largement.
Donc c'est aussi un mouvement de reconquête finalement, de leur point de vue en tout cas. Exactement. De ce qu'ils ont perdu.
Exactement, c'est un mouvement de reconquête et la séduction est l'arène principale de cette reconquête.
Vous êtes très sceptique et vous l'avez redit, on comprend tout à fait, sur cette idée d'une crise de la masculinité. Mélanie Gourarier, c'est un discours, c'est une rhétorique de victimisation qui revient, vous le montrez, hein, périodiquement. Chaque époque a l'air d'être une époque de crise de la masculinité. Là, c'est encore le cas. C'est-à-dire que ça continue chez les séducteurs, notamment, de revenir, de dire on est attaqué, on peut plus faire ce qu'on veut, on a perdu le pouvoir.
Exactement. C'est ce discours qu'on retrouve encore majoritairement et qu'on retrouve de réactiver de façon nouvelle après MeToo, avec des hommes qui se disent en souffrance, qui se disent perdus dans leur vécu masculin, etc. Et ça, c'est très intéressant à mon sens à analyser, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait une permanence de la masculinité. Or, les historiens le montrent très bien, la masculinité, c'est un concept qui est mouvant historiquement, qui change en fonction des échelles dans lesquelles on se situe, que ce soit des échelles géographiques, des échelles historiques, des échelles sociales. Il y a plusieurs modèles de masculinité qui coexistent en même temps. Et donc cette idée-là que face à un changement social, les hommes tout d'un coup seraient forcés à se transformer, ça repose sur une permanence du masculin qui n'existe pas, qui n'est pas vraie en fait, socialement.
Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, Mélanie Gourarier, c'est aussi l'idée que finalement, alors les femmes sont très importantes dans ces groupes-là, mais il y a ce que vous appelez, ce qu'on appelle une homosocialité, c'est-à-dire que finalement, vos séducteurs, eh ben, ils aiment bien rester entre hommes. Et ça leur plaît beaucoup, paradoxalement.
Oui, ça leur plaît beaucoup. Et ça, c'est aussi toute une tradition littéraire qu'on retrouve chez les anthropologues qui ont travaillé sur les groupes masculins. Je pense à l'espace des cafés, au club sportif, etc., où il y a un amour réel de se retrouver entre hommes. Et ça aussi, ça a été une des jolies découvertes, je dirais, de mon terrain. C'est que lorsque je les interrogeais ou on discutait d'amitié, le langage amical prenait des formes du langage amoureux, en fait. Et il y a dans l'amitié masculine quelque chose, effectivement, qui relève vraiment d'un langage amoureux. Et avec l'idée que, en tout cas c'était vrai pour les membres de la communauté de la séduction, que l'amour entre hommes, l'amitié entre hommes, est une valeur supérieure à l'amour hétérosexuel envers les femmes, puisque comme les individus masculins ont plus de valeur que les femmes, s'aimer entre hommes, ça a aussi de fait plus de valeur. Et donc ça a été aussi très important pour mon travail, puisque ce que j'essaye de montrer, c'est que donc, comment est-ce qu'on devient un homme au sein de la communauté de la séduction ? Donc, comment est-ce qu'on acquiert des qualités qui masculinisent et qui sont des qualités qui permettent de se positionner davantage dans un rapport de pouvoir ? En gros, une de mes conclusions, c'est de dire que devenir un homme, c'est se gouverner soi-même pour mieux gouverner les autres. Donc, apprendre à se contenir, toutes ces techniques-là qui permettent d'intégrer les catégories du pouvoir. Donc, ça, c'est un premier aspect de mon travail. Mais que le deuxième aspect, c'est que pour se régénérer, cette identité masculine a besoin d'espaces d'entre-soi, et que ces espaces d'entre-soi, on l'a vu, je pense à la Ligue du LOL, on l'a vu à plein d'autres moments, on pense à des affaires à l'Assemblée, enfin tous ces espaces très forts d'homosocialité masculine sont des espaces clés de la reproduction du pouvoir, et ce sont des espaces qui sont nécessaires pour cette reproduction, d'où le fait qu'ils soient vraiment fermement défendus, c'est-à-dire qu'ils soient qu'il est toujours difficile dans ces sphères-là de permettre aux femmes d'y rentrer.
Et d'où le fait qu'on va se terrer dans son terrier, on va rester dans son lair, on va rester dans cet entre-soi. Cette émission s'achève. Merci beaucoup, Mélanie Gourarier, d'être venue nous parler de votre ouvrage. Un grand merci chaleureux. Je rappelle le titre de votre livre, Alpha Male, Séduire les femmes pour s'apprécier entre hommes. Ça a été publié aux éditions du Seuil en 2017. Merci à Emmanuel Demisco à la réalisation. Cette émission sera très vite en podcast sur le site de Fréquence Protestante. À bientôt.